France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'assassinat de Marseille jeudi dernier était bien un crime d'intimidation, les mots du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes. Après la mort de Mehdi Kessassi, nous l'écouterons. Un dossier du narcotrafic repris en main par le président de la République qui se rendra à Marseille mi-décembre. C'est aussi une préoccupation des maires partout en France. Nous les écouterons et nous verrons également ce que la création d'un parquet national anti-criminalité va changer dans quelques mois. À suivre encore la campagne de distribution des Restos du Cœur. Lancé ce matin, bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
La santé mentale des bénéficiaires en question.
Les restos en première ligne, 2 bénéficiaires sur 3 passés par un épisode dépressif ces 12 derniers mois, un défi de plus pour les bénévoles.
A tout de suite pour vos précisions. Nous serons à Rouen dans les prochaines minutes. Une malade de 99 ans bloquée 2 jours et demi dans un box aux urgences. Ces pêcheurs bretons remerciés hier par Volodymyr Zelensky.
On n'en revenait toujours pas hier soir quand on rentrait avec les collègues. On avait l'impression d'avoir un peu rêvé entre guillemets, quoi. D'avoir rencontré une personne très chaleureuse, très sympathique, très humaine.
Pour avoir envoyé des filets de pêche anti-drones en Ukraine, les aides aux entreprises en difficulté, à quoi servent-elles? Celles versées à Novasco n'ont pas empêché la fermeture du site d'Agondange. Et puis nous nous pencherons sur le tracé des voies romaines. Des chercheurs nous disent qu'elles étaient 2 fois plus longues que ce que l'on savait. À partir de 13h30, notre invité est un jeune homme qui sillonne la France depuis 5 ans pour trouver des idées qui changent la vie. Raphaël Rugère, le créateur de la Fédération Française des Trucs qui Marchent. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. En voilà une idée qui marche. Une station service communal. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Lou Trotignon demande la chanteuse Kalika.
Je me sens compris par cette chanson. La première phrase, c'est dur d'être différent. Et je pense que au-delà de la transidentité de mon spectacle, dès qu'on est un peu différent, c'est fou ce qu'on se prend dans la gueule, quoi.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ils ont manifestement besoin de se retrouver. 12 000 maires sont attendus à leur congrès annuel à Paris qui s'est ouvert ce matin. C'est 1 maire sur 3, une participation record. Et parmi les sujets brûlants, la sécurité et donc la lutte contre le trafic de drogue. L'une des premières réunions du congrès ce matin y était consacrée. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Vous êtes sur place, vous y avez assisté. Que disent ces maires ?
Eh bien, ils se sentent démunis. Le narcotrafic gangrène jusqu'aux petites communes. Jérémy Giuliano est maire de Leval, 4000 habitants dans le Var. Il a vu s'installer chez lui un réseau mexicain.
Un cartel mexicain qui voulait s'installer dans le centre Var. Ils se sont installés sur la commune pour faire une plateforme tournante où ils entreposaient leur matériel. Donc moi, j'appelle ça un entrepôt Amazon de la drogue.
Le réseau a été démantelé, mais tous les jours, le maire croise des petits dealers et des consommateurs sans que rien ne change.
À un moment donné, il y en a marre. Nous, on a eu un point de deal qui était assez important. On a mis plus de 8 mois pour le faire fermer. La personne, elle a été attrapée, elle est convoquée au tribunal dans 4 mois. Et pendant les 4 mois, elle fait quoi ? Ben, elle revient dans le village, elle se monte bien.
À leur échelle, les élus tentent d'agir. Nathalie Kunders, maire socialiste de Dijon, multiplie les outils.
Nous avons équipé la ville de caméras de vidéoprotection. Ça permet en tout cas sur les zones de deal de les déranger. Ça permet aussi à la justice de pouvoir résoudre des drames. Nous faisons aussi parfois appel à des agents de sécurité privée sur des zones bien précises.
Elle insiste aussi sur toutes les actions de prévention. Christophe Hogard, maire d'hiver droite des Herbiers en Vendée, demande à l'État plus de moyens sur le terrain.
On le voit au quotidien, on a une vingtaine de gendarmes pour parfois 30 000 habitants, c'est rien du tout en fait. Et en plus les terrains sont grands, et les terrains de jeu pour les narcotrafiquants sont grands.
Mais tous les élus ici en ont bien conscience, c'est à l'échelle nationale et même européenne qu'il faut agir. Tout ça, ça nous dépasse, soupire l'un d'eux.
Lise Rosveille en direct du Congrès des maires de France avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Tout cela alors qu'à Grenoble, un enfant de 13 ans était grièvement blessé par balle le week-end dernier sur un point de deal et qu'à Marseille, la justice enquête sur l'assassinat de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, militant engagé contre ces trafics. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, affirme que cet assassinat avait pour objectif d'intimider ceux qui parlent.
Ce qui est certain, c'est que la plupart des participants, et nous avons collectivement constaté que c'était évidemment pas un règlement de compte classique comme on pouvait malheureusement déplorer dans le cadre du paysage de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et que c'était manifestement un crime d'intimidation, et d'ailleurs plusieurs personnes autour de la table ont évoqué le fait qu'il y avait ici un point de bascule. Ce meurtre préparé était totalement inédit. Donc c'était un véritable point de bascule.
Les obsèques de Mehdi Kessassi se dérouleront donc cet après-midi sous surveillance policière, ajoute le ministre. Et sur le rond-point où le jeune homme a été abattu, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées depuis ce matin. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui participait sous la direction d'Emmanuel Macron à une réunion ce matin à l'Élysée au sujet de ce trafic de drogue. Réunion à l'issue de laquelle on a appris qu'Emmanuel Macron se rendrait mi-décembre à Marseille pour faire un point sur cette lutte anti-drogue. Le président de la République qui a demandé à ses ministres d'amplifier la lutte, et pour cause, le trafic ne faiblit pas. Un chiffre pour s'en rendre compte: il y a quelques jours, le patron de l'OFAST indiquait que les quantités de cocaïne saisies sur les 9 premiers mois de l'année 2025 avaient déjà dépassé le record de l'année dernière, hausse de 130%. Alors pour l'empêcher, la loi narcotrafic a été promulguée en juin. Elle prévoit la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Ce sera pour le mois de janvier. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Service police-justice de France Inter. Que va changer ce parquet? Qu'est-ce qu'il va apporter?
Alors, essentiellement une plus grande autonomie dans le traitement des dossiers complexes sur des organisations criminelles nationales ou internationales. Il existe déjà au sein du parquet de Paris une section de ce type, la Junalco, mais le futur PNACO aura davantage de moyens. 50 postes, dont 16 magistrats, des greffiers et des agents de liaison au sein de la police, de la gendarmerie, des douanes et du renseignement pénitentiaire. Le PNACO continuera de travailler avec les parquets régionaux spécialisés, les 8 GIRS répartis sur tout le territoire, et il se saisira des dossiers les plus conséquents. Plusieurs centaines d'entre eux sont déjà en cours de réorientation judiciaire. Parallèlement à ce PNACO, le président du tribunal de Paris va détacher 5 magistrats à temps plein pour l'instruction des dossiers qui leur seront transmis par le PNACO, et il va créer une 35e chambre correctionnelle spécialisée pour accélérer les délais de traitement. Donc le PNACO est sur la rampe de lancement. Il ne manque que la validation officielle de la nomination de sa procureure, Vanessa Perret. Ce sera sans doute la semaine prochaine. Et puis son installation sera effective le 5 janvier prochain.
Merci Jean-Philippe Degnaud. J'ajoute que la justice française n'est pas la seule aux prises avec le trafic de drogue. On a appris ce matin que la police belge avait mené 18 perquisitions et arrêté 8 suspects dans le milieu du narcotrafic dans le cadre d'une enquête sur un projet d'attentat qui visait précisément le procureur de Bruxelles. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous avez suivi ce matin la réunion, j'en parlais à l'instant, autour du président de la République concernant la lutte contre les trafics de drogue. Est-ce que des décisions ont été prises?
Eh bien, Emmanuel Macron a demandé aux magistrats et aux ministres réunis autour de lui de poursuivre, d'amplifier la lutte contre le narcotrafic. On le rappelle, selon la Cour des comptes, 8 communes sur 10 sont concernées par le trafic ou la consommation de drogue. Mais dans les dossiers les plus que prioritaires, il y a Marseille. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et son homologue à la justice, Gérald Darmanin, s'y rendront jeudi. Le chef de l'État fera aussi le déplacement dans la cité phocéenne à la mi-décembre pour faire un nouveau point de situation. Il convoquera aussi une nouvelle réunion de crise, puisque l'exécutif veut accélérer la mise en œuvre de la loi narcotrafic. La lutte est difficile, mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, veut voir des avancées positives. Selon lui, les trafiquants sont à cran de plus en plus parce que la police mène des actions extrêmement efficaces. Et il cite l'exemple de Marseille, par exemple, où 2000 personnes sont mises en examen pour trafic de stupéfiants, dont 900 en détention provisoire. Le nombre d'homicides liés au narcotrafic a été divisé par 2, rappelle le patron de la place Beauvau. On est passé de 49 à 24. Puis Laurent Nunez répète 2 fois ce même message: s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas tous ces drames.
Merci Sonia Gobry pour ces précisions. Une enquête ouverte pour un infanticide à Montrottier, petit village des Monts du Lyonnais. Une enfant de 4 ans est morte, sa mère est soupçonnée. Elle est actuellement hospitalisée en établissement psychiatrique. Sa garde à vue la nuit dernière a dû être levée. Et puis dans l'Oise, l'ancien propriétaire et gérant du parc d'attractions Saint-Paul a été condamné à 3 ans de prison ce matin avec sursis après la chute mortelle d'une femme depuis l'un de ses manèges. C'était en 2020. Il s'agit de Gilles Campion, le neveu du roi des forains, Marcel Campion. les ceintures de sécurité installées sur ces montagnes russes avaient été retirées. Une malade qui passe plusieurs heures sur un brancard dans un box aux urgences, ça arrive. Qu'elle y passe 2 jours et demi et qu'elle soit âgée de 99 ans. Voilà qui choque au CHU de Rouen. C'est ce qui est arrivé à Claire le mois dernier, le week-end du 18 octobre. Claire hospitalisée pour un œdème au poumon. 64 heures avant d'avoir une chambre, sa petite fille Aline était à ses côtés. Elle raconte au micro de Charlotte Coutard.
Aux urgences, Claire est rapidement prise en charge, placée sous oxygène, installée dans un box sur un brancard vendredi soir.
Et elle est restée donc sur ce brancard jusqu'au lundi midi.
Sa petite fille Aline, infirmière de profession, et sa mère se relaient auprès d'elle.
On nous dit qu'on a le droit d'être 15 minutes à côté d'elle, à tour de rôle. Donc je vais venir, je vais lui amener un oreiller pour qu'elle puisse être plus confortable.
Aline aide le personnel du CHU à changer sa grand-mère. Elle apporte ses repas, la fait manger, lui masse les jambes.
Du coup, en fait, on va la mettre sur un matelas parce qu'elle commence au niveau de l'état cutané, en fait, un petit peu à s'abîmer. Les soignants qui sont épuisés, ils sont gênés autant que nous parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire plus.
Au bout de 64 heures, Claire est hospitalisée sur un vrai lit. Un cas parmi d'autres, regrette Uriel Pied-Noël, représentante du personnel membre du syndicat UNSA.
Les soignants sont fatigués et sont même autant démunis en fait que les patients qui sont là. Tous les jours, on pourrait venir aux urgences, nous, représentants du personnel, et faire des alertes à la direction. Aujourd'hui, on va nous dire que c'est moins pire que la semaine dernière ou c'est moins pire que la nuit d'avant. Donc, c'est pas entendable.
Le CHU de Rouen juge cette histoire regrettable et explique que la situation était exceptionnellement tendue aux urgences et dans les services ce week-end-là.
Reportage ici Normandie. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Je sais pas s'il y a un lien avec la situation aux urgences, mais la ministre de la Santé prépare ce qu'elle appelle une simplification de l'administration de la santé dans notre pays. Qu'est-ce qu'elle veut changer? Est-ce que ça peut avoir un impact pour nous, les soignés?
Alors c'est en fait Sébastien Lecornu qui a remis en question le rôle des agences régionales de santé vendredi dernier lors des assises des départements à Albi dans le Tarn. Le Premier ministre entend effectuer un transfert de prérogatives essentielles en santé en direction des préfets, d'une part, et de l'autre côté, des conseils départementaux. Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France, est contre ce projet de réforme.
Certains pensent que l'on va réformer notre système de santé en s'attaquant directement et uniquement aux ARS. Mais on est un peu dans cette mouvance que l'on entend depuis maintenant plusieurs mois, portée par certains responsables politiques, sur, soi-disant, la suradministration du système de santé, et notamment à l'hôpital. À la FHF, nous avons dénoncé cette fake news. Nous ne sommes pas à 35% d'administratifs, nous sommes à 10,6% à peu près.
Mais pour les patients, l'impact, Jérôme, pourrait être énorme. Si les départements étaient en charge de la santé, comme d'un service public local, il y a un risque de voir se creuser des écarts d'accès aux soins entre les territoires, selon les associations de patients. En gros, plus un département sera riche et plus ses administrés seraient mieux soignés. Précisons que les agences régionales de santé emploient aujourd'hui 8000 agents. Leur suppression fait partie des mesures inscrites de longue date dans le programme du Rassemblement National. Pour de nombreux acteurs politiques que j'ai pu avoir ce matin, le discours du Premier ministre devrait en fait un appel du pied direct vers le RN.
Victor Delande, la santé mentale cette fois, celle des bénéficiaires des Restos du Cœur. Les Restos lancent aujourd'hui leur traditionnelle campagne de distribution et ces bénévoles constatent depuis des années une dégradation de l'état psychologique des personnes qu'ils accueillent. Alors ils l'ont étudié. Faustine Calmel, quels sont les résultats?
Eh bien le chiffre le plus alarmant, c'est celui du nombre de bénéficiaires qui déclarent avoir traversé au moins un épisode dépressif ces 12 derniers mois. Ils sont 64%. C'est 3 fois plus que dans l'ensemble de la population. Muriel Dapp, représentante des Restos du Cœur dans les Hauts-de-Seine, le constate quotidiennement.
Ce sont des gens moralement détruits qui viennent nous voir. La précarité, la tristesse fait qu'ils se replient sur eux-mêmes. Mais effectivement, la santé mentale, on la voit dans nos centres. Les gens sont très fragiles et on sent qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils coulent encore plus.
Les femmes, personnes seules, familles monoparentales sont particulièrement exposées. Isolement, charge mentale, épuisement, face auquel les restos multiplient les ateliers et cafés pour créer, recréer du lien.
1 300 000 personnes, Faustine, aidées l'an dernier par les restos. Si ce chiffre ne bouge pas, l'association craint de devoir refuser davantage de demandes cette année.
Par 2 fois déjà, ces 2 dernières années, les restos ont dû resserrer leurs critères, c'est-à-dire exclure de leur aide des publics jusqu'alors pris en charge. Et pour autant, le nombre de repas distribués reste très élevé, rappelle le tout nouveau président des restos, Jean-Michel Richard.
au-delà de 160 millions de repas distribués gratuitement chaque année, et on pressent un accroissement à nouveau de personnes qui vont venir pousser notre porte. Et c'est d'autant plus une alerte que nous sommes soumis à des contraintes financières, bien évidemment, opérationnelles. Les murs de nos centres ne sont pas extensibles. Et puis des contraintes humaines.
Avec des bénévoles, certes toujours très mobilisés, mais fatigués, et que l'association peine parfois à renouveler.
Faustine Calmel, un vote salué à la fois par le gouvernement israélien, mais aussi par l'autorité palestinienne. C'est assez rare pour être souligné. C'était hier soir aux Nations Unies, l'adoption du plan de paix américain qui va permettre le déploiement à Gaza d'une force internationale, seule voix dissonante, celle du Hamas, pour qui cette résolution, je cite, ne répond pas aux exigences et aux droits des Palestiniens. Alors que va-t-il se passer maintenant? Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, est-ce qu'on en sait plus sur cette force internationale ?
Oui, on connaît son mandat. Cette force internationale de stabilisation, c'est son nom, doit désarmer le Hamas, démilitariser l'enclave, protéger la population et sécuriser les convois d'aide humanitaire. On connaît l'échéance de sa mission, fin 2027, et on sait qu'elle sera dirigée d'un centre de commandement américain installé sur le territoire israélien à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza, en coordination avec l'armée de l'État hébreu et l'Égypte. Ce que l'on ignore, c'est quand elle sera déployée. Donald Trump espère au début de l'année prochaine. Et puis surtout, qui va y participer? Aucun pays n'est pour le moment directement impliqué. 20 000 soldats indonésiens seraient prêts, selon Jakarta. L'Égypte, le Qatar, l'Azerbaïdjan sont aussi concernés. Mais il n'y a aucune communication officielle, en tout cas pour le moment.
Thibault, cette force va avoir fort à faire. Où en est la situation sur place?
Alors Gaza est coupée en deux, à 53% du territoire est occupé par l'armée israélienne. Cette zone encercle le cœur de l'enclave où la situation humanitaire est préoccupante. L'hiver approche, des pluies diluviennes ont ce week-end chassé de leurs abris 13 000 familles selon les Nations Unies. Des camions entrent par trois points de passage, mais beaucoup d'entre eux appartiennent au secteur privé et livrent de la nourriture payante à une population démunie. L'aide humanitaire arrive en quantité insuffisante. Et les besoins sont immenses. 1 million de personnes, soit la moitié de la population de Gaza, vit aujourd'hui, selon l'ONU, dans des abris de fortune.
Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem. L'initiative de Donald Trump au Proche-Orient est donc saluée, on vient de l'entendre, mais le président américain est désavoué dans son pays par une partie de son camp, les militants MAGA. En cause, ses liens amicaux avec Jeffrey Epstein, cette figure de la vie mondaine de New York, criminel sexuel, qui a abusé de jeunes mineurs pendant des années. Il est mort en détention en 2019. La question est de savoir ce que Trump savait de ces faits. Eh bien, l'une de ses plus proches fidèle, Marjorie Taylor Greene, demande la publication du dossier d'enquête Epstein. Trump l'accuse désormais de trahison. Timur Özturk, l'un de nos correspondants aux États-Unis, s'est rendu dans le 14e district de Géorgie, le fief de l'élue républicaine.
Dans la petite ville de Lafayette, la plupart des électeurs sont républicains et ont voté à la fois pour Donald Trump et pour Marjorie Taylor Greene, comme James, embarrassé par la situation.
Je vois beaucoup de divisions dans le parti républicain, entre les gens de MAGA, qui sont des fanatiques. J'espère qu'on pourra se réconcilier parce qu'on a besoin d'être unis pour les élections.
Depuis quelques jours, Donald Trump surnomme Marjorie Taylor Greene la cinglée, la traître, l'élu se dit désormais menacé.
La chose la plus blessante qu'il a dit est que j'étais une traître. C'est le genre de paroles qui peuvent radicaliser les gens contre moi et mettre ma vie en danger.
Comme sa représentante au Congrès, James est favorable à la publication du dossier Epstein.
À mon avis, oui, il devrait l'être. De toute façon, ils se sont certainement débarrassés de tout ce qui pouvait incriminer des gens. On ne saura sûrement pas la vérité de toute manière.
Il ne soupçonne pas le président, contrairement à Mike.
Si j'avais peur à cause de quelque chose que j'ai fait, je ne voudrais pas les publier.
La Chambre des représentants doit s'exprimer aujourd'hui sur la publication du dossier. Dans une volte-face, Donald Trump a finalement appelé les républicains à voter pour.
Timur Özturk aux États-Unis pour Inter. La France alimente la guerre en Ukraine. Réaction de Moscou ce matin à l'accord passé hier sur la vente de 100 avions Rafale de Paris à Kiev. Lettre d'intention signée en France par le président ukrainien qui a profité, Volodymyr Zelensky, de sa visite dans notre pays pour rencontrer et remercier des pêcheurs bretons. Gérard Le Duff de l'association Kernik Solidarité. Kernik, c'est dans le nord du Finistère. Gérard Le Duff a envoyé avec ses amis 280 km de filet de pêche à la ville de Zaporijjia pour la protéger des attaques de drones russes. Il a serré la main du président ukrainien hier.
En fait, le président Zelensky a été à Zaporijjia la semaine dernière et il a vu des filets donc, qui servent de mur anti-drone. Il a posé la question à savoir d'où venaient ces fameux filets. Et il a souhaité nous rencontrer. C'est l'ambassade qui nous a contactés en fin de semaine dernière. On croyait que c'était un petit peu un canular. On n'en revenait toujours pas hier soir quand on rentrait. On avait l'impression d'avoir un peu rêvé entre guillemets. Quoi. Il nous a beaucoup remercié pour tout ce qu'on fait pour l'Ukraine. Et on lui a dit qu'on ne pouvait pas rester insensible à la détresse des Ukrainiens, qu'on veut aider ce peuple martyr. Il y a ceux qui disent, ceux qui font, et nous on l'a fait. Et là, le conseil départemental, par la voix de son président Maël de Calan, propose une subvention pour faire partir deux autres camions afin de livrer 400 km supplémentaires pour faire des murs anti-drones. Parce que le président nous a bien dit qu'on ne s'imagine pas le nombre de vies qui ont été sauvées depuis que nos filets sont posés à Zaporijjia notamment.
Le témoignage de Gérard Le Duff au téléphone de Béatrice Duguay.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une erreur de près de 5 milliards d'euros. Combien le pacte Dutreil coûte-t-il à nos finances publiques? Ce dispositif permet aux patrons de transmettre leur entreprise en bénéficiant d'avantages fiscaux. Selon le projet de loi de finances pour cette année 2025, le coût du dispositif est de 800 millions d'euros. Mais la Cour des comptes vient de mener son enquête. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
En fait, ce dispositif coûte beaucoup, beaucoup plus cher.
Oui, le constat est extrêmement clair. Non seulement il y a eu défaut d'évaluation de ce dispositif, mais ce mécanisme qui cumule plusieurs abattements fiscaux est de plus en plus sollicité, notamment depuis 5 ans. Résultat, le manque à gagner pour les caisses de l'État, ce qui n'a pas été touché en impôts, est passé d'un milliard d'euros environ en 2020 à 3 milliards en 2023 et à minima 5 milliards et demi l'an dernier. C'est 10 fois l'estimation initiale lors de sa création il y a 20 ans. Il faut dire que cet outil est très avantageux pour les entreprises familiales qu'il sollicite, alors qu'elles pourraient payer théoriquement jusqu'à 45% d'impôts lors d'une transmission, ce taux peut être ramené après pacte Dutreil autour de 5%, à la condition que l'entreprise reste au moins 5 ans dans le giron familial et donc tricolore. Et c'est là tout l'enjeu pour les défenseurs de ce gros coup de pouce fiscal.
5 milliards et demi d'euros donc, est-ce qu'au moins c'est efficace?
Eh bien pas vraiment. On voit, dit la Cour des comptes, qu'il y a un peu moins de restructuration, c'est vrai, dans les entreprises qui sont passées par un pacte Dutreil que dans les autres groupes vendus à des repreneurs extérieurs, mais l'écart n'est pas énorme. Et selon le rapport, pas d'impact significatif sur les investissements, ni sur la création d'emplois. Les sages de la rue de Cambon proposent donc de resserrer drastiquement les conditions pour avoir accès à ces réductions d'impôts, ce qui pourrait permettre de diviser par deux, disent-ils, son coût pour les finances publiques.
Je précise que le MEDEF, de son côté, conteste les résultats de cette enquête, voilà, et parle d'analyse partiale et partielle. Merci Claire Chaudet. Puisqu'on parle d'aide aux entreprises, il y a aussi l'argent qui est débloqué par l'État lors des reprises d'entreprises en difficulté. Ce sont des aides exceptionnelles. On en a parlé ces derniers jours pour l'aciériste Novasco. Novasco en a bénéficié l'an dernier en touchant 85 millions d'euros, quand dans le même temps, le repreneur de cette entreprise, le fonds d'investissement Griboul, lui ne versait pas les 80 millions d'euros annoncés, ce qu'il conteste par ailleurs. Ça pose tout de même la question de ces fonds publics qui sont accordés aux entreprises en difficulté, puisqu'on a appris hier que 3 des sites Novasco allaient fermer. À quoi a servi cet argent public? C'est la question. Selon Mathieu Aron, journaliste au Nouvel Obs et auteur du livre Le Grand Détournement, les contrôles sont inexistants.
Il y a des aides dans tous les secteurs avec des administrations différentes qui sont censées les contrôler. En réalité, ces aides ne sont jamais conditionnées. Dans l'absolu, on va aider une entreprise parce qu'elle est en difficulté et parce qu'il faudrait que elle sauvegarde l'emploi. Le problème, c'est qu'on se rend compte que assez souvent, cette entreprise ne respecte pas cet engagement, mais elle a quand même touché l'aide et elle ne rembourse pas l'aide. Il faut impérativement que l'État mette des normes différentes, qu'elle puisse être contrôlée, ces aides.
Le témoignage et l'explication de Mathieu Aron au téléphone de Luca Nietzsche. En Corse, le groupe Total Energy fait appel après sa condamnation hier à 115 millions d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence. Total épinglé pour entente dans la distribution de carburant sur l'île et qui dit aujourd'hui réfléchir au maintien de ses stations-service en Corse, y compris dans des zones rurales au plus près des habitants. Fin de citation, des fermetures possibles donc. C'est une dynastie de la gastronomie française, les trois gros, quatrième génération de cuisiniers dans la Loire, à Roanne et désormais à Ouche. César Troisgros, 39 ans, a été sacré hier soir cuisinier de l'année 2026 par le guide Goemio, comme son père et comme son grand-père avant lui. Là aussi, on va faire de l'histoire, mais beaucoup plus ancienne. Nous sommes dans l'Empire romain et ses célèbres voies qui permettaient de le parcourir en un temps record pour l'époque. Eh bien, des chercheurs, une vingtaine d'entre eux, venus de partout dans le monde, viennent de réaliser une carte interactive façon Google Maps. Et on apprend, Rémi Brancato, que la longueur de ces voies romaines est deux fois plus élevée que ce qu'on pensait.
Oui, depuis début novembre et la publication de l'étude dans la revue du groupe Nature Scientific Data, 700 000 personnes ont déjà cliqué sur cette carte routière un peu ancienne à laquelle Maël Crépy a contribué pour le laboratoire Isoma de Lyon. Il est géoarchéologue au CNRS.
Chacun peut aller vérifier s'il a une voie romaine au fond de son jardin ou pas.
La carte compile données anciennes et recherches récentes sur les voies secondaires. Notamment, le laboratoire Isoma a modélisé numériquement des déplacements en chameau dans le désert égyptien pour découvrir ensuite de nouveaux terrains de fouilles, détaille sa collègue, historienne et archéologue Bérangère Redon.
Il y a eu un travail important sur des régions qui étaient mal connues, sur lesquelles on avait simplement tracé des axes très droits. Nous avons inclus une donnée topographique, nous avons fait attention aux pentes, etc., pour retracer les voies les plus probables, les plus proches de la réalité possible.
En traçant ces routes plus sinueuses, leur longueur a augmenté, plus de 300 000 km de voies romaines en tout, en lançant 50, quasiment deux fois plus que les précédents atlas. D'autres scientifiques en cours de recherche espèrent aussi collaborer, assure Maël Crépy.
Là, on a déjà des propositions d'ajout sur la Suisse, sur la France, sur le sud de l'Allemagne, sur l'Italie, sur la Jordanie. C'est un gigantesque appel d'air.
Pas forcément pour découvrir de nouvelles routes, mais pour consolider les données. Seuls 3% des emplacements sont certains.
Explication Rémi Brancato. Le tennis, le début de la phase finale de la Coupe Davis aujourd'hui à Bologne, en Italie, avec l'équipe de France qui défie la Belgique à partir de 16h, mais pour l'Espagne, sans le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui ne jouera pas dans deux jours face à la République tchèque. Blessé à la jambe droite, il a déclaré forfait ce matin, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de plus en plus froide de Stéphanie Fromentin, puis notre invité Raphaël Rugère, le créateur de la Fédération française des trucs qui marchent, le livre qui met en lumière les solutions locales partout en France. On va vous en présenter quelques-unes. Céline Lenz, élue à Sarrebourg, nous parlera par exemple des siennes, notamment possibilité pour des collégiens de créer une entreprise. Venez nous apporter les vôtres de solutions à l'échelle de votre commune. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton. Nous découvrons toute cette semaine le volcan italien, le Stromboli. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de la chapelle d'Aligné dans la Sarthe à Anglaise, dans le Tarn, en passant par Consenvoie dans la Meuse. Je vous parlerai, Jérôme, de ces communes qui gèrent elles-mêmes leur station-service.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Lou Trotignon qui présente actuellement son spectacle Mérou sur la scène du théâtre Saint-Georges à Paris. Et avec lui, nous écouterons la chanteuse Kalika, un titre hommage à ceux qui se sentent différents.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter présente Oli. O-L-I. Le premier podcast d'histoire pour enfants. Et ce mois-ci...
Bonjour, je suis Jessé et je vais vous raconter l'histoire d'Armand le Flamand.
Une autre.
Bonjour, je suis Mylan Chapiron et je vais vous raconter l'histoire de Yipié et le prout magique.
Oui.
Plus de 160 histoires à retrouver sur Mon Petit France Inter et sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr.
Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Par amour du sport,
c'est le livre événement de Tony Estanguet. Des coulisses de la candidature à la magie de la cérémonie d'ouverture, Tony Estanguet dévoile 10 ans de passion au service d'un rêve, les Jeux de Paris 2024. Par amour du sport de Tony Estanguet, une incroyable aventure humaine, un livre aux éditions Calman Lévy.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Une journée plutôt calme.
Oui, même si elle a débuté cette journée sous les grisailles pour beaucoup de régions, le soleil est bien présent sur toute la façade est, accompagné de vents à 70-90 km/h sur les Bouches-du-Rhône, le Midi Toulousain et les Côtes-Varoises. Du Var justement aux Alpes-Maritimes, un petit risque d'averse existe sous un ciel passagèrement nuageux, tandis que le temps est encore mitigé en Corse avec des averses passagères, plus fréquentes et marquées sur le nord-est de l'île. Vers le nord de la France, ça se gâte doucement, une nouvelle perturbation apporte dès aujourd'hui quelques pluies du nord de la Bretagne à la frontière belge et les précipitations sont plus soutenues près des côtes de la Manche. Elles s'accompagnent d'un vent d'ouest qui se maintient à 50-60 km/h.
Et des températures presque hivernales.
Ah bah carrément, c'est le froid qui a gagné même le sud-est. Les maximales se situent entre 6 à 12 degrés sur l'ensemble de l'Hexagone. C'est à peine plus doux sur le pourtour méditerranéen avec 13 à 16 degrés. Il fait 5 degrés à Nevers, 7 à Lille et Nancy, 9 à Paris comme à Caen, 10 à Toulouse, 11 degrés à Bordeaux, 12 à Biarritz et 14 à Perpignan.
Merci Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Les bonnes idées, il y en a dans toutes les communes. Si seulement on pouvait le faire savoir. Cette idée toute simple a germé dans l'idée de notre, dans le cerveau, dans la tête de notre invité. C'était il y a un peu plus de 5 ans. Bonjour Raphaël Rugère.
Bonjour.
Vous aviez à l'époque 19 ans quand vous avez créé la Fédération française des trucs qui marchent. Vous en avez 25 aujourd'hui. Vous êtes toujours conseiller municipal de Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher, mais vous avez désormais l'oreille et l'attention des grands-mères et de nombreuses personnalités politiques, quelques-unes présentes hier soir à Paris pour votre 5e soirée annuelle, soirée à laquelle participait notre 2e invité. Bonjour Céline Benz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Sarrebourg en Moselle. Vous avez travaillé un temps pour le cabinet de l'ex-premier ministre Michel Barnier et vous avez présenté hier soir l'un de ces trucs qui marchent. Ça concerne les collégiens. Vous allez nous en parler dans un instant, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont dans le livre, puisque vous en avez fait un livre, Raphaël. Donc ça sera l'occasion avec vous Céline de nous en parler dans les prochaines minutes. Si vous aussi si vous avez envie de partager ces bonnes idées, 01 45 24 7000, vous passez également via l'application Radio France, puisque tous les maires ne sont pas au congrès des maires de France. Il y en a encore quelques-uns qui sont restés dans leur commune. Je précise que nous serons avec le maire d'une commune de l'Indre dans quelques minutes, qui lui a une idée pour revitaliser son centre-ville. On va parler façade, plus précisément. Raphaël Rugère, comment tout cela a-t-il débuté ?
Eh bien, je suis originaire d'un village qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon, dans le département du Cher, dans lequel j'ai décidé de m'engager à 19 ans, en allant voir Madame le maire, en lui proposant d'être sur sa liste, qu'elle a acceptée. Et depuis 2020, je découvre ce qu'est la vie locale, ce qu'est l'engagement. Et à l'époque, je travaillais, et je travaille toujours, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Évidence. Et Grégoire Bourgeois, qui est l'un des fondateurs, un jour à la machine à café, me dit « Mais écoute, moi j'ai un vieux rêve, c'est celui de créer une fédération française des trucs qui marchent. » Et moi, j'avais pour projet de faire un tour de France à la rencontre des élus locaux. Et finalement, ce tour de France n'a été que l'outil, le moyen au service de cette ambition de fédération.
Donc c'est de lui qu'est venue l'idée, si je puis dire. Vous prenez la route, 100 000 km parcourus, 400 communes visitées. Dans l'histoire, vous êtes rejoint par un nouveau camarade qui était au Caviezel, qui signe le livre avec vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur notre démocratie ?
Déjà que tout ne va pas si mal en France et que la démocratie a un cœur qui bat encore très fort, notamment grâce aux élus locaux qui sont engagés au quotidien dans leur commune.
Ça vous a surpris ?
Ça m'a rassuré, ouais. Ça m'a émerveillé aussi, et c'est ce qu'on essaye de raconter dans le livre qu'on a édité avec Buchet-Chastel. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des trucs qui marchent partout en France, quelle que soit la taille de la commune, quelles que soient les thématiques, loin de tous les clivages partisans, et que ces trucs qui marchent, s'ils sont dupliqués, ont un vrai pouvoir pour transformer la France via ces communes.
On va donner un exemple avant de donner la parole à Céline, les médecins solidaires d'Agen dans la Creuse. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche et pourquoi ça s'est diffusé ?
Agen, c'est une commune à 20 minutes de Guéret.
Il y a plusieurs Agens en voilà, France. Celui-là, c'est A-J-A-I-N.
Tout à fait. C'est pas le Agen des pruneaux, c'est l'autre qui gagne en notoriété, notamment grâce à cette formidable initiative qui part d'un principe assez simple. Plutôt que de demander à un médecin de s'installer à l'année ou sur plusieurs années, ce qui est parfois difficile pour 26 000 communes quand même en France, eh bien, ce sont des médecins qui se relaient semaine après semaine pour assurer une continuité et un accès aux soins à tous ces habitants qui sont dans un désert médical. Et ce truc qui marche se duplique puisqu'ils ont...
Donc ils viennent d'ailleurs, ces médecins ?
Tout à fait. Ils peuvent venir de Bordeaux, de Nantes, de Paris.
Ils passent un peu de temps dans la commune.
Ils viennent au vert, ça leur fait du bien.
Ça fonctionne aussi.
Ça fonctionne et ça se duplique. Maintenant, il y a 10 antennes de médecins solidaires en France.
Et comment est-ce que cette idée a circulé ? C'est vous qui l'avez fait circuler, cette idée ?
Alors, pour tout vous dire, ils n'ont pas eu besoin totalement de nous, puisque le sujet est tellement criant. Et puis, l'équipe portée par Martial Jardel, qui est un talentueux médecin qui a créé Médecins Solidaires, et son équipe, notamment Gabriel Dupassage, font un travail extraordinaire. Ils sont énormément sollicités et ils ont aujourd'hui une vraie association qui a besoin d'être soutenue. Ils recrutent de nouveaux médecins. Donc si des médecins nous écoutent à l'antenne, on compte sur vous.
Ou des maires qui sont intéressés évidemment par cette initiative. Céline Benz, dans votre commune, alors ça se passe pas précisément à Sarrebourg, mais c'est juste à côté, mais toujours en Moselle, c'est à Arzviller. Votre projet, il concerne des collégiens. Vous les avez incités à produire des objets, c'est ça ?
Alors, l'initiative vient d'un enseignant, Hervé Maillet, qui peut-être nous entend. Et cet enseignant s'est dit, il faut décloisonner l'école et il faut montrer que les enfants ont des talents qu'ils peuvent exploiter et semer de petites graines qui un jour germeront pour susciter des vocations. Et donc, il leur met à disposition des machines, des imprimantes 3D et il les accompagne dans la réalisation d'objets concrets, réels, qu'on peut acheter, comme mes boucles d'oreilles.
Qui ont été faites par ces collégiens.
Et oui, par leurs soins. Et ils ont eu la gentillesse de me les offrir hier pour la grande soirée des trucs qui marchent. Et voilà, on peut tous se les procurer à 5 euros à Arzviller ou par correspondance, ils ont une page Facebook.
L'idée, c'est pas que le collège se transforme en multinational, je suppose. C'était quoi votre idée ? C'est de se dire, peut-être on rapproche ces collégiens du monde de l'entreprise, peut-être ils peuvent réfléchir à un futur métier sur place parce qu'il y a des problématiques de recrutement ?
Alors exactement, l'idée c'était de dire on vous met le pied à l'étrier et on vous donne une idée de ce que peut être le monde professionnel et de ce que pourront être les métiers que vous pourrez réaliser un jour si vous le souhaitez en leur montrant très concrètement que c'est possible et qu'ils ont toutes les cartes en main pour le faire. L'idée c'est une idée de lutter contre l'assignation à résidence et contre l'autocensure que peuvent avoir les jeunes ruraux en se disant moi je viens d'un tout petit village du bout du monde, je vois les autres à la télé, c'est pas pour moi, je sais pas faire, créer une entreprise, c'est pas possible. L'idée c'est qu'ils puissent prendre confiance en eux, qu'ils puissent réaliser des choses, le faire savoir et que ça fonctionne.
Alors ça, c'est un thème qui concerne l'emploi. Il y a un autre thème dont on parle beaucoup dans nos communes, c'est l'état de nos centres-villes ou de nos centres-bourgs qui se dépeuplent, ou des commerces ferment, ou des logements, ou des habitations se dégradent. Et ça vous a mis la puce à l'oreille. Alexis Rousseau-Jouenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Levroux. Dans l'Indre, c'est pas très loin du Cher, cher à Raphaël. Vous avez lancé dans votre commune, vous êtes en ce moment au congrès des maires, vous êtes libéré pour nous répondre quelques minutes. Alexis, vous avez lancé un plan façade pour redonner vie à votre centre-ville. Racontez-nous.
Effectivement, on a choisi de faire ça en trois étapes avec dans un premier temps un premier plan façade, c'est-à-dire une subvention pour aider les propriétaires privés qui se situent dans un secteur historique, comme on a la chance d'en avoir un à Levroux, pour les aider tout simplement parce que il y a un petit peu plus de contraintes dans ce secteur-là au niveau des matériaux qu'il faut utiliser. Donc ce qu'on considère un peu comme le bâton, nous on donne la carotte justement pour aider cette ville, cette petite cité de caractère de Levroux à retrouver des couleurs.
Et donc on Vous aviez l'argent pour ça ?
Oui, alors on l'a dégagé l'argent. C'est une enveloppe d'environ 10 000 euros qu'on essaye de mettre en place chaque année. Et on essaie d'accompagner les dossiers suivants, c'est-à-dire pour une enveloppe globale de travaux plafonnée à 8 000 euros, on subventionne à hauteur de 40% maximum. Donc ça fait 3 200 euros. Je vous cache pas que très vite, on s'est fait un petit peu déborder, mais à la limite, tant mieux, parce que ça a suscité un vrai enthousiasme. Et là, au bout de 5 ans, on est quasiment à près de 45-50 maisons rénovées ou en cours de restauration.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rénove les maisons, les façades, ça incite des commerces à s'installer.
Oui, parce que en même temps et parallèlement à cela, on mène une politique de rachat de vieux bâtiments ou de vieux commerces qui, pour la plupart, ne sont plus occupés depuis maintenant une dizaine, une vingtaine d'années. Moi, j'en ai un exemple, je l'ai jamais vu ouvert depuis que je suis né. Et là, depuis maintenant 2 ans, on accueille un épicier primeur qui est là et qui occupe le logement au-dessus. C'est un bâtiment qu'on a racheté 15 000 euros aux enchères, on a fait 150 000 euros de travaux, mais on a maintenant 2 loyers qui tombent et c'est surtout que sur la rue principale, non seulement la façade a retrouvé là aussi de la couleur, mais on a rajouté un commerçant en plus dans la ville.
Moi, je suis assez frappé à la lecture du livre Raphaël Rugère. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y a assez peu de sujets qui touchent à la sécurité, au fond, aux bonnes idées en matière de sécurité. Est-ce que c'est un thème qui est extrêmement présent, mais vous avez fait le choix d'en parler peut-être moins, je crois que c'est 2 ou 3 chapitres, ou bien est-ce que vraiment personne ne vous en parle ? Et il n'y a pas d'initiative de ce point de vue-là.
Non, bien sûr, on nous en parle déjà parce que c'est l'une des préoccupations majeures des maires qui sont interpellés régulièrement par leurs habitants. Il y a quelques initiatives dans le livre qui peut-être racontent une plus grande histoire. Je prends l'exemple de Talent qui a créé des zones d'échange sécurisées. Tout à fait, en banlieue dijonnaise, c'est une très belle commune qui a créé des zones d'échange sécurisées. Si on fait des achats sur Internet, parfois, on donne rendez-vous dans une rue et puis il y a un jeune qui s'était fait voler ses AirPods. Ils ont créé cette zone qui est sous caméra de vidéosurveillance. Il n'y a plus aucun incident reporté depuis, ce qui résout un vrai problème. Nous, si vous voulez, tous nos trucs qui marchent adressent un problème très concret. Et c'est la multiplication de ces initiatives, de ces trucs qui marchent, qui permettent d'adresser une grande thématique dans son ensemble. Et puis derrière sécurité, il y a aussi des sécurités liées au trafic routier, au déplacement des enfants. Ouais, on est très attachés notamment à ce que les enfants puissent se réapproprier leur village, leur ville, retrouver de la liberté. Il y a l'exemple de Mutterholz en Alsace, dont le maire Patrick Barbier a recréé des chemins pour que tous les enfants puissent aller à l'école à pied ou à vélo en toute sécurité.
Je vous pose cette question parce que quand je lis le livre, j'ai l'impression que les préoccupations que vous décrivez ne sont pas celles dont on parle le plus souvent dans la presse et dans les médias. On s'en fait l'écho, nous ici au maximum, et Carnet de campagne juste avant avec Dorothée Barba, évidemment. Mais le plus souvent, c'est pas les sujets dont on parle. Et pourtant, ce sont ceux qu'il y a dans le livre et ce sont les préoccupations et les solutions que portent les maires. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites ?
Mais peut-être que ça fait du bien d'en parler justement.
Je vous le confirme.
De ces trucs qui marchent, du positif, on parle quand même de 600 000 Françaises et Français élus locaux qui sont engagés au quotidien dans leur commune. Il y a le Salon des maires en ce moment, à 40 minutes à pied d'ici. Le climat est un petit peu tendu, morose, il y a beaucoup de colère, de frustration. Et bien parfois, parler des trucs qui marchent, ça fédère, ça redonne le goût de l'action. Hier, on était au Cirque d'hiver Bouglione, on a réuni 1500 personnes pour venir écouter le récit de 6 élus sur leurs trucs qui marchent. Les gens en sortie de salle étaient galvanisés, ils me disent « mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ces histoires ?» qui justement ne font pas toujours la une. Alors si, elles ont fait la une de Ouest-France hier, et Cyril Petit peut en témoigner, il était à l'antenne juste avant nous. Et les Françaises et les Français, quand ils lisent ces histoires, ils se disent « mais c'est possible d'agir, c'est possible d'agir à l'échelle de ma commune, c'est possible de m'engager en mars 2026 aussi ».
Oui, c'est le message aussi envoyé, vous pouvez vous porter candidat avant les élections municipales. Agir est parfois au-delà de ce que l'on croit possible. Céline Benz, je crois qu'à Sarrebourg, vous êtes intervenue pour aider les producteurs de laine à distribuer la production locale qui souffrait de la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, tout à fait. C'est une initiative qui a été portée par l'intercommunalité et par plusieurs producteurs. Donc, c'est une région, celle dont je viens, qui est une région dans laquelle il y a une forte culture ovine.
Et on est dans l'est de la Moselle, il y a beaucoup de moutons.
On est dans le sud de la Moselle, très précisément.
Sud de la Moselle.
Attention. Et il y a donc beaucoup de moutons qu'on utilisait donc pour leur viande et on avait la laine comme déchet. Et l'idée, c'était de la valoriser sans avoir à aller dans des laveries industrielles qui se situaient très loin en Belgique, ce qui n'était pas très avantageux en termes d'impact carbone. Et donc, l'idée des élus locaux et des agriculteurs, c'était de reconstituer une filière en local qui permette de valoriser ce déchet pour qu'il devienne un produit noble qui serve par exemple à réaliser des isolants en proximité. Donc c'est bon pour la société, c'est bon pour l'environnement et c'est frugal.
Donc la communauté de communes a monté une structure pour ça, c'est elle qui collecte la laine ?
En lien avec la Chambre d'agriculture de la Moselle et les paysans locaux, dans une ancienne friche industrielle dans laquelle se trouvaient les usines de chaussures Bata à l'origine.
Oui, où il y a énormément d'espace.
Absolument.
Depuis que ces usines ont fermé. Même question qu'à Raphaël Rugère. On décrit, Céline Benz, un pays fatigué, divisé, fermé. Moi, la lecture du livre, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Vous qui êtes un peu entre Sarrebourg et Paris, finalement, Céline, est-ce que c'est votre constat ou pas ?
Eh bien non, ce n'est pas mon constat.
Le pays va mieux que ce qu'on dit ?
Je pense qu'il va mieux. Je pense qu'il va mieux en local, en réalité. Je vois bien des gens ronchonner, se plaindre parfois légitimement. Je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui souffrent et qu'il y ait des problématiques qu'il faut prendre au sérieux. Mais en revanche, il y a des réservoirs d'énergie, d'idées. Et s'il y a bien un endroit dans lequel on peut lutter contre l'impuissance publique ou du moins contre le sentiment d'impuissance publique, c'est dans les communes. C'est sur le terrain et c'est en agissant avec du lien humain qui doit être mis au centre de tout.
Alexis Rousseau-Jouenet, est-ce que échanger comme cela, voir des initiatives qui viennent d'ailleurs, quand on est maire, c'est votre cas à Levroux dans l'Indre, ça redonne le moral aussi. On a besoin de parler aux autres pour parfois se regonfler.
Ah mais c'est extraordinaire. Moi, depuis hier soir, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage parce qu'on a parlé pendant presque deux heures de cette France, de ce pays qui va bien et auquel évidemment on est tous attachés. Et ce recueil de trucs qui marchent, il va être salutaire pour bon nombre d'entre nous. Et hier, il a été question d'une ferme municipale pour que la collectivité puisse produire elle-même ses légumes pour ses cantines. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de mettre en place si d'aventure j'ai le plaisir et le bonheur d'être réélu dans quelques mois. Donc voilà, on va s'inspirer, on s'inspire de tout ça et franchement, ça fait vraiment du bien.
La ferme municipale, c'est la France avec Marie-Luce Ribaud il y a quelques semaines, je vous le conseille. C'était en réécoute, voilà pour dire qu'on a une philosophie assez proche de la vôtre. Raphaël Rugère, merci d'être passé par ce 13-14, Fédération Française des Trucs qui Marchent. C'est aux éditions Buchet-Chastel, je remercie également Céline Benz. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Qu'est-ce que c'est que de vivre au pied d'un volcan ? Voilà la question que l'on se pose toute cette semaine en suivant les habitants de l'île italienne de Stromboli. C'est au nord de la Sicile, une éruption toutes les 10 minutes environ sur cette île. Le risque est donc là en permanence.
Et si c'est une éruption importante, la prima cosa
en cas d'éruption importante, la première chose, c'est de se protéger des possibles chutes de matériel craché par le volcan et de se mettre en sécurité jusqu'à la fin de l'événement. Après une forte éruption, il y a aussi un risque de tsunami. Donc le port doit être aussi vidé de toutes ses embarcations.
Je m'appelle Domenico Russo, je suis géologue et pour la commune de Lipari, j'exerce la fonction de responsable de la protection civile. En fonction des dégâts de l'éruption, on peut éventuellement envisager d'éloigner les touristes et les habitants, mais dans aucun de nos plans d'urgence, il n'est prévu de procéder à une évacuation préventive. Aussi parce qu'on ne peut vraiment pas prévoir quand aura lieu une éruption paroxysmale, ou alors seulement avec quelques minutes d'avance. On a mis en place un système d'alerte avec des sirènes pour prévenir la population quand une grosse éruption va arriver afin qu'elle puisse se mettre à l'abri.
Ce qui s'est passé, c'est que la perception du risque s'est un peu changée. Je m'appelle Béatrice, c'est plusieurs années que je vis ici, et je m'occupe un peu d'organiser les groupes des personnes, des touristes, des marcheurs qui veulent monter à la montagne avec les guides de Stromboli. On a changé un peu la vision du risque, donc s'il n'y a pas du monde sur le volcan, on est plus tranquille. Le risque, c'est beaucoup... Il existe, mais c'est comme vivre à la ville, non? Tu as des probabilités que tu vas avoir des situations un peu dangereuses, mais pas grand-chose, non?
En 2019, il y a eu un incendie. Mais par chance, cette fois-là, le vent était horizontal, donc le feu est parti à gauche et à droite dans la partie haute de l'île. Je m'appelle Gennaro Ricci, je viens à Stromboli depuis une quarantaine d'années. La forêt n'avait pas de pare-feu, de marge, de système de protection anti-incendie, comme on devrait en avoir dans toute zone boisée. Pourtant,
la mairie n'a rien fait. Et ensuite, en 2022, il y a eu cet autre incendie plus dramatique, car il a détruit toute la végétation jusqu'aux maisons. Si bien que ce sont les habitants qui ont défendu leurs maisons de nuit, à main nue, parfois pieds nus, parce qu'il n'y avait pas de pompiers. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir officiellement parce qu'ils n'avaient pas le matériel adéquat pour combattre ce type d'incendie. Et les Canadair ne peuvent pas voler de nuit. Après tout ça, il y a eu des projets, mais ça fait 3 ans depuis 2022 et il n'y a toujours rien de concret. Mais bon, entre guillemets, un volcan est un volcan. Quand on vit ici, on ne fuit pas. Quand on est passionné par cette île, on ne fuit pas. Par exemple, mon épouse, le 4 juillet l'an dernier, quand il y a eu cette éruption paroxysmale forte, au lieu de fuir, elle est allée sur l'observatoire, c'est-à-dire tout près du volcan. Elle était là, elle m'a même envoyé des photos. Et pourtant, ce n'est même pas une courageuse.
Deuxième épisode signé Adrien Serrière, réalisation Vincent Godard. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi 13h49, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, petites histoires de stations-service.
Et je vous emmène, Jérôme, à La Chapelle d'Aligné. Cette petite commune de 1700 habitants dans la Sarthe a une spécificité. Sa station est censée municipale. Depuis 2020, on y trouve 2 pompes automatiques, une gasoil et une sans-plomb 95, de quoi réjouir les automobilistes et les commerçants puisque cela ramène du passage dans le bourg qui compte une boulangerie, une boucherie, charcuterie, un coiffeur, une pharmacie. Et la semaine dernière, dans Ouest France, le maire justifie simplement le lancement de cette station-service particulière. On n'allait pas parcourir 10 km pour faire le plein, ça aurait été idiot et pas écolo.
Comment ça fonctionne ?
Eh bien, roulons une centaine de kilomètres plus au sud, Jérôme, il y a 2 ans, à Landivy, 1100 habitants en Mayenne, le garage qui délivrait le carburant a été placé en liquidation judiciaire. Pas d'essence pendant des mois donc, alors que 1600 à 1800 voitures circulent chaque jour sur la D31. Mais la station-service vient de rouvrir en juillet, le maire raconte. On l'a racheté pour 1 euro symbolique. On a investi 87 000 euros pour installer des pompes automatiques 24 heures sur 24. Et c'est un succès. Le ravitaillement était prévu une fois par semaine. Il a lieu tous les 5 jours.
Combien ça coûte à ces communes ?
Eh bien, surtout aux consommateurs, Jérôme.
Oui.
C'est ça la question.
Combien coûte l'essence aux consommateurs ?
Oui, bien sûr. Alors globalement, pas plus cher que dans les supermarchés voisins.
Elles sont compétitives, ces stations-service.
Au contraire
communales.
Même, j'ai regardé ce matin, le prix du litre de sans-plomb 95 à La Chapelle d'Aligné, il était de 1,69 euros. Merci Jérôme. Selon les sites spécialisés, exactement le même tarif, voire moins que les supermarchés situés 20 km alentour. Alors le maire de Landivy explique, une collectivité n'a pas le droit de faire des bénéfices, on a juste le droit de rajouter 4 centimes au litre pour l'entretien de la station et ces maires déjà multifonctions deviennent incollables sur le prix du baril de pétrole et sur la gestion de stocks de carburant.
Est-ce qu'il y a beaucoup de stations-service municipales en France ?
Quelques dizaines, Jérôme, une centaine sans doute, surtout en ruralité, la plupart automatiques. Celle de Moutoumé dans l'Aude à 40 ans, j'en ai repéré 2 au Menet dans les Côtes d'Armor. Il y en a aussi à Dun-sur-Meuse ou Consenvoie dans la Meuse également. À Val de Blore dans les Alpes-Maritimes, un projet existe pour éviter aux habitants 1 heure de route pour faire le plein, lit-on dans Nice Matin. Et le 1er janvier 2026, celle d'Anglès, 550 habitants dans le Tarn, qui était gérée par une association, passera sous la houlette de la mairie. Elle distribue 450 000 litres de carburant par an et dispose aussi d'une borne de rechargement électrique. Et voici ce que dit le maire dans la dépêche. On ne parle pas ici de commerce, mais de service public, au même titre que l'école ou la poste. Le monde rural souffre. Avec les volumes vendus ici, un privé ne pourrait pas vivre de ça. Si les communes ne prennent pas le relais, les stations disparaîtront. Et sans carburant, c'est tout un territoire qui se fige.
Quelques dizaines de stations municipales, donc, sur un total de combien de stations en
France ? Eh bien, il y en avait 10 806 en France au 31 décembre 2024, selon l'UFIP Énergie et Mobilité. C'est 102 moins qu'un an ans auparavant et ce sont surtout les points de vente traditionnels qui ferment tandis que le nombre de pompes en supermarché reste stable. Alors 11 000 stations aujourd'hui contre 40 000 en 1980 et selon une étude de Mobilience, l'organisation professionnelle des métiers de la distribution et des services de l'automobile qui alerte, 27% des stations-service indépendantes pourraient fermer leurs portes en France d'ici à 2035.
Merci Cyril Petit de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est l'humoriste Lou Trotignon que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Lou Trotignon qui joue actuellement son spectacle Mérou sur la scène du Théâtre Saint-Georges à Paris. Spectacle réjouissant dans lequel il raconte son parcours et sa transition. Transition qu'il a commencé quand il était étudiant, la prise d'hormones, le corps qui se masculinise. Et c'est une chanson de Kalika qu'il a souhaité que l'on écoute. Kalika, c'est l'une de ses amies. Quant à la chanson, elle s'appelle « Rester pure ».
Pour moi, en tout cas, je ne sais pas comment Kalika l'a écrite ou quoi. C'est une chanson de comment est-ce qu'on fait sa place quand on vient d'une minorité ou qu'on est considéré un peu comme bizarre à côté de la plaque dans le grand mainstream, devant le grand public, sans se faire défaut à soi-même, en restant soi-même. Et moi, ça me parle parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ça dans mon métier en tant qu'humoriste, trans, un des premiers qui venait d'arriver. Comment faire sa place Je trouve qu'elle le dit très bien. Je trouve qu'elle parle beaucoup de à quel point il faut beaucoup travailler son image pour être accepté.
Vous, vous avez beaucoup travaillé votre image ?
Ouais, beaucoup. On a beaucoup travaillé sur le fait de ne pas faire culpabiliser les gens, par exemple, quand ils savent pas ce que c'est la transidentité, d'axer sur mon capital sympathie, parce que je trouve que l'empathie, c'est le meilleur outil pour que les gens nous écoutent.
Ça fait peur d'être différent, on te le rappelle tout le temps, que t'es pas dans les cases, que t'es ça, pas ta place. Moi, je sais pas comment faire avec ma tronche de l'enfer, émo-punk dans les veines, émoji en joue carrière, je ne vais pas.
C'est l'année dernière qu'est sortie cette chanson de Kalika, Frédéric.
Une chanson dans laquelle elle évoque notamment les ratures dans ses yeux et les fêlures sur son armure. Des mots qui sont allés directement dans le cœur de Lou Trotignon.
Moi, ça m'a parlé parce que souvent, quand on vient de minorité ou quoi, on a beaucoup de bagages. Soit par exemple, quand on est une personne LGBT, on vit beaucoup d'harcèlement scolaire, par exemple. Et du coup, on n'a pas forcément appris à être lisse. Donc, on vient avec toutes nos fêlures et on essaye d'être accepté tel quel. Par exemple, moi, je fais pas semblant que être trans, c'est super tous les jours. C'est pas vrai. Mais c'est pas non plus nul tous les jours. En fait, c'est la nuance, quoi. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire, j'espère. Sinon, on sera plus amis après.
C'est quoi le plus compliqué dans votre quotidien de garçon trans ?
Le plus compliqué, c'est la transphobie, hein, je veux pas mentir. Que des gens qui ne me connaissent pas et qui ne comprennent pas du tout mon identité, mais n'essayent pas du tout, qui ne veulent pas essayer, me détestent. Alors qu'on se connaît pas. Je trouve ça trop bizarre de détester des gens qu'on connaît pas du tout. Et je crois que ça, c'est le plus dur, parce que bon, j'ai envie que les gens m'aiment bien. Je pense que c'est assez commun. Et je crois que ça, ça me blesse pas mal de savoir qu'il y a des gens qui me détestent de base, juste parce que je suis trans. Alors que pour moi, être trans, c'est vraiment une super expérience de vie.
Et autour de vous, les gens ont réagi de quelle manière ? Votre famille ?
Bah, ça dépend des gens. Dans la famille, j'ai la chance d'avoir une mère extrêmement soutenante. Parce que du coup, ma sœur est trans aussi. Donc elle a été assignée homme à la naissance, elle transitionne vers la féminité. Elle a fait son coming out avant moi. Donc elle a pas mal essuyé les plâtres. J'ai bien attendu. Et du coup, ma mère a deux enfants trans. Donc je dis souvent qu'elle est un peu comme Mylène Farmer, à engendrer des trans, des gays et des lesbiennes. Et elle est vraiment très soutenante. Elle a galéré au début, hein. Elle n'a pas tout compris, on a fait le chemin ensemble, mais elle ne nous a pas lâchés.
Même si c'est dur, et même si je te fais peur, même si j'ai des cicatrices, regarde comme j'ai du cœur. Ce soir, je te fais la bise, tes regards de travers font bien moins peur que mon père. Mais j'ai connu l'enfer, mais je dois rester.
Cette chanson-là, vous l'écoutez régulièrement ?
Je l'écoute avant mon spectacle, pour me mettre en forme, pour me rappeler pourquoi je fais mon spectacle. Et puis, je me sens compris par cette chanson. La première phrase, c'est dur d'être différent. Et je pense qu'au-delà de la transidentité et de mon spectacle, dès qu'on est un peu différent, c'est fou ce qu'on se prend dans la gueule, quoi.
Alors que c'est une richesse, la différence.
Bah oui, ce serait trop triste. Un monde où tout le monde est pareil. Eh ben, il n'y aurait pas d'émission radio. Si on ferait une interview, on dirait, tu t'appelles comment, Jean? Bah moi aussi, Jean. Bon, bah voilà. À quoi ça servirait? Donc non, moi je trouve que la pluralité des êtres et des identités, c'est ça qui est hyper beau. Et qu'il faut préserver, quoi.
Restez pur, Kalika, c'était donc Frédéric, le choix de l'humoriste Lou Trotignon.
Lou Trotignon, dont je vous conseille le spectacle Mérou, un seul en scène, qu'il joue à la fois en tournée et à Paris au Théâtre Saint-Georges.
Merci Frédéric et à demain. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan nous parle toute cette semaine d'Anne d'Autriche, c'est dans un instant.